Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Eh bien, bienvenue à cette nouvelle Réu de rédaction, Geoffrey et Déborah. La semaine dernière, on avait entamé une discussion sur les blockbusters de 2023 et plus particulièrement sur un été assez particulier qui a vu, on a vu s'enchaîner quantité de flops et des succès tout aussi improbables. Et c'était l'occasion parfaite de s'interroger sur l'état global de l'industrie de manière un peu plus transversale que d'habitude. Sauf que le sujet s'est avéré extrêmement riche et qu'on n'a parlé que d'une poignée de films et de phénomènes du box-office. Donc c'est intéressant de continuer et de prolonger cette réflexion, alors que beaucoup prétendent peut-être un peu vite qu'Hollywood connaît une crise sans précédent. On peut pas passer à côté du fait que, au-delà de The Flash et d'Indiana Jones, 2023 s'est surtout démarqué quand même pour des méga, méga flops au box-office, ou du moins des films qui ont eu deux problèmes majeurs. C'est qu'il y a toujours des flops au box-office sur des gros blockbusters, mais là, il y en a eu plus, a priori, en 2023, et surtout plus de démarrages décevants, alors qu'en parallèle, et c'est un truc qu'on évoquait déjà avec Indiana Jones, les budgets ont juste explosé. Alors, on sait que sans doute le Covid et le fait que certains films ont été repoussés ont quand même sans doute un peu joué, mais l'inflation globalement des budgets a été exponentielle, puisque jusqu'alors beaucoup de films tournaient autour des 200 millions de budget, c'était déjà pas mal pour des gros blockbusters. Là on approche, voire on dépasse les 300 millions, et du coup ça rend très difficile pour les films de se rembourser, même quand ils font des chiffres finalement pas si mauvais. Mais il suffit qu'ils soient un peu décevants dans l'état de leur franchise et que le budget était conséquent, et du coup ça rend les choses impossibles. Et alors là, pour le coup, le poids relou dans la catégorie, c'est évidemment Fast and Furious 10.
Non mais là, ça c'est le cas d'école, parce que on prend juste le box-office. Box-office mondial, il est à 704 millions pour 145 millions aux États-Unis. Bon, si on prend les chiffres comme ça, ça va, c'est pas catastrophique, c'est même très très bien. Quand on sait que le film a coûté 340 millions de dollars de budget hors marketing, et que du coup, si on ajoute 100 à 150 millions de frais marketing, on est environ à 450-500 millions de dollars de budget.
Mais ça, ce budget de 340 millions, c'est...
C'est inexplicable.
Il n'a pas été démenti, là. C'est The Wrap qui avait sorti ça, non ?
Variety avait sorti... il me semble que c'était Variety qui avait sorti un papier, justement, pour un petit peu décortiquer ce chiffre-là. Bon, évidemment, on le sait, il y a le casting. Oui. C'est à peu près 100 millions pour le casting, sachant que Charlize Theron, Jason Momoa et tout ça, faut bien les payer, surtout que quand tu vois comme ils sont en très très gros sur l'affiche, tu te dis qu'ils ont dû négocier un bon gros salaire.
Ils ont raison de cachetonner pour un film comme ça, si tu passes en cousin avec une perruque, tu prends 8 millions quoi.
Final, Vin Diesel, on parlait de son très gros cachet de 20 millions, mais c'est pas tant que ça au final.
Non, je pense que lui prend sur les recettes à la Tom Cruise, et du coup il doit pleurer là.
Donc il y a déjà les 100 millions qui sont pour le casting, ça a été tourné aussi pendant la pandémie, donc forcément il y a eu des explosions de budget à ce niveau-là, et en plus il y a eu les petites guéguerres internes avec le départ de Justin Lin, l'arrivée de Louis Leterrier qui, à mon avis, s'est pas trop fait dans la douceur et qui a été un peu amorti avec des liasses de billets. Donc il y a ça aussi qui explique le salaire du film, mais avec 500 millions à peu près de budget, comment tu peux te rembourser ?
Bah, ils ont
Est-ce
dû
que
miser
c'est seulement possible
sur... Bah, ils ont dû miser sur les chiffres du haut de la saga, Fast and Furious 7 et 8, qui avaient dépassé le milliard, en se disant, en fait, on va rester là.
Parce que le 8 avait dépassé le milliard. Je crois que le 7, il y avait quand même ce truc-là où c'était 2015 et c'était l'année où de tous les gros records, en fait.
Et c'est surtout que, oui, 700 millions au box-office mondial, c'est pas dégueu, mais si on le prend, comme tu disais, dans un ensemble et dans la franchise, bah, c'est juste super inquiétant, en fait, pour la suite et pour le dernier volet en deux parties. Parce que, oui, que t'as raison, le top, c'était Fast and Furious 7, où ça atteint les 1,5 milliard de dollars. Il y avait évidemment la mort de Paul Walker, un petit peu cette idée de fin qui a énormément joué sur les recettes et sur l'attrait du public. Ensuite, Fast and Furious 8, on était aussi au-dessus du milliard, mais on commençait déjà un petit peu à chuter. Et ensuite, ça a été un peu plus drastique. Fast and Furious 9, on était à peu près sur les mêmes chiffres que Fast and Furious 10, sauf que bah, c'était 200 millions de budget.
Et puis, il avait l'excuse de la pandémie avec encore la restriction sanitaire dans certaines salles. Donc, il avait un joker, voilà. Éventuellement.
Et donc là, on voit qu'en fait, c'est l'essoufflement de la franchise qui est en train de se jouer. Il reste encore deux autres films.
Ah, pas forcément.
priori, c'est peut-être un qu'un seul, quand même.
En fait, ça pose une question intéressante qui ressemble un peu à Marvel, parce qu'il y a une époque, en fait, ça peut pas être dans la surenchère constante. Chaque film ne peut pas dépasser celui d'avant, alors que pourtant, c'est normalement la logique d'une franchise. Tu continues parce que ça rapporte de plus en plus de thunes, sinon ça n'a aucun sens. Et en même temps, plein de gens avaient commenté après Avengers Endgame, Infinity War et Captain Marvel et Black Panther, qu'en fait, le milliard n'était pas l'objectif tout le temps, constamment, de chaque Marvel. C'était pas tenable et qu'en fait, c'était un cycle et il y a des trucs où ça redescend et remonte. Mais en fait, c'est des logiques qui sont difficiles à comprendre parce que tu te dis, bah, jusque dans quelle mesure c'est OK que ça redescende. Ouais. Si le Fast and Furious 10, partie 3, alinéa 2, fait 450 millions, est-ce que c'est OK, tu vois? Et en même temps, ils devaient évidemment imaginer qu'ils n'allaient pas remonter à 1 milliard 6, 7, 8, 3 milliards à chaque nouvel épisode. Donc je ne sais pas quel est leur barème, mais visiblement, il n'est pas bon puisqu'ils ont continué à claquer plein de thunes et c'est le budget le plus élevé de la saga alors que ça commence à chuter. Donc c'est sûr que de l'extérieur, tu te dis, mais qui a pris ces décisions?
Mais là, tu vois à quel point justement les coulisses a priori infernaux du film ont quand même pas joué là-dedans. Enfin, je me dis quand même, personne n'aurait voulu investir 340 millions dans un film de base. Ah, non, donc surtout pour qu'il ait la même gueule que les précédents. Donc tu
ouais,
te
pire
dis,
même, parce que bon... la fin de Fast and Furious 10, ok, d'accord, on peut peut-être justifier le fait que ce soit un petit peu plus cher parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux. C'est techniquement plus spectaculaire, techniquement, parce que le résultat, c'est juste infâme.
C'est vrai, quand tu regardes dans le passé, les films qui ont coûté aussi cher, c'est genre Pirates des Caraïbes 4, des trucs comme Avatar, comme certains Marvel. Donc ouais, ça reste une anomalie de... Mais je serais très curieux qu'un jour quelqu'un... En fait, ce qui m'étonne, c'est que personne n'ait démenti le budget en faisant un communiqué, un truc officiel pour lâcher en insider que le budget, c'est plutôt 300 millions. Il laisse vraiment dans la nature que le truc, c'est 340 millions et pas 300, pas 280 et tout. C'est genre... mais comment c'est possible? Personne ne dément et c'était il y a 3 mois. Donc en fait, c'est sûr qu'ils s'en foutent ou que c'est vrai.
Peut-être que ça devient un argument de vente au final. Regardez, notre film est très cher, du coup vous allez en prendre plein les yeux.
Ouais, a priori.
Alors
oui.
Qu'au final, bah, Fast and Furious 10, il retourne un petit peu au résultat que faisait Fast and Furious 5 en 2011.
C'est la pitié. Hein.
Oui, alors que c'était quand même c'était une autre époque et des plus petits budgets et la saga était à ce moment-là sur la pente ascendante. Mais y a, du coup, c'est assez rigolo parce que l'autre film qui est un peu dans le même cas, en plus en étant l'autre gros blockbuster en deux parties de cet été, c'est Mission Impossible 7. Donc on en parlait un peu avant, mais alors lui, pareil, explosion drastique de son budget avec 291 millions de dollars de budget. Ce qui fait que bah, là, pareil, a priori, si tu doubles le tout en rajoutant les coûts marketing et en disant qu'il faut a priori que le film fasse 800 millions pour se rembourser, en étant la première partie, donc le Dead Reckoning partie 1, pareil, alinéa 3,
c'est
machin.
L'année des titres pourris.
Ouais,
hein,
ouais, un peu année des titres pourris. Ouais, celui-là, je pense que ça n'a pas aidé. Donc, à titre de comparaison, quand même. Mission Impossible, en fait, n'a eu que des budgets pareil en explosion. Donc, c'était 90 millions pour le premier, en plus sans compter l'inflation. Mais après, ça a monté à 125 pour le 2, 130, 140 pour le 3 et 4. Et après, c'est arrivé à 150 sur Rogue Nation et 180, en gros, pour Fallout. Donc, ce qui est, pour moi, les deux, enfin, Rogue Nation et Fallout sont assez intéressants parce que d'une part, c'est les deux autres volets que Christopher McQuarrie a réalisé. Et là, Dead Reckoning est un peu dans la même mouvance voilà, d'uniformisation quand même de la franchise. Pour le coup, c'est assez improbable parce que les retours ont été tellement positifs que pour le coup, tout le monde se disait que même au-delà de l'impact de Top Gun sur lequel forcément ils allaient se reposer, il y avait le bouche à oreille en fait. Et ce qui prouve d'ailleurs que le bouche à oreille bah, fonctionne dans des cas très spécifiques et on y reviendra peut-être un peu après.
Quand il met bien.
Monsieur, quand le film met bien.
Non, mais honnêtement, quand on a été voir le film avec Mathieu, on l'a vu tous les deux. En sortant, on est tous les deux assez fans de Mission Impossible, de la saga. On s'est tous les deux dit on trouve ça hyper décevant et on s'est aussitôt demandé à quel point ce film allait pouvoir créer un bouche à oreille, parce que justement je trouve qu'il ne remplit pas, peu importe ce qu'on en pense, je trouve que en termes de spectacle, de consommation pure de pop-corn et de plaisir, il est vraiment plus théorique, plus pseudo-cérébral, hein. Ouais. Et en tout cas il donne moins la ration, je trouve, et il est plus long, plus lent, plus costaud en théorie, et du coup ça m'étonne qu'à peine, bon c'est facile de faire ça, de le dire après, mais je suis à peine étonné de la fréquentation qui n'a pas du tout été très stable, parce qu'en fait c'est compliqué de conseiller en te disant tu vas prendre ton pied, Mission Impossible, bah non en fait.
Surtout que moi Mission Impossible, je suis assez hermétique quand même à cette franchise, pourtant quand je voyais toute la promo qui a été faite, et justement ça mettait vraiment l'action sur des cascades encore plus folles, un rythme encore plus énervé et tout ça, pour qu'au final vous reveniez et vous nous disiez ouais bon bah au final c'est un peu bof quoi, c'est un petit peu plat, je me dis mais comment tu peux foirer ça alors que toute la promesse de ton film c'était justement sur
Tu mettais trois scènes d'action dans la bande-annonce et voilà.
C'est de plus en plus effréné.
D'autant que du coup c'est quand même intéressant parce que certains se sont interrogés sur pourquoi le budget était aussi vénère. Alors au-delà effectivement là encore des questions de Covid, de pourquoi en plus de a priori comment se répartit le budget entre le partie 1 et partie 2 qui est plus ou moins tourné, enfin qui est tourné au moins de moitié. Mais il y a un truc visiblement qui a vraiment fait péter le budget qui aurait été plutôt autour des 250 sinon. Surtout dans l'intro du film, donc la fameuse séquence du sous-marin qui à la base devait être dans le partie 2, et en fait c'est Christopher McQuarrie et Tom Cruise qui ont insisté pour que ça arrive dans le partie 1. Donc en plus comme c'est une scène qui repose beaucoup pour le coup sur des effets numériques, visiblement cette scène là a pas mal fait péter le budget, et c'était déjà au moment où le studio s'interrogeait quand même sur disons la folie des grandeurs de Tom Cruise qui se croyait un peu tout permis et qui a fait que personne n'a trop coupé les vivres au bout d'un moment du truc, alors que ça ne cessait de grimper. Et visiblement, ça devrait se répercuter sur le budget du deuxième qui devrait être un peu moins.
Mission Impossible 8 a coûté 35 millions, si vous assurez. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de rappeler que Mission Impossible 7 a été le premier gros blockbuster tourné en période de pandémie. C'est pour ça que Tom Cruise a pété un cap sur le plateau. Ils étaient vraiment très surveillés. Ils avaient vraiment fait des pauses de tournage. Apparemment, je crois qu'il avait pris un hôtel, un bateau entier pour que toute l'équipe y soit.
Oui,
c'est
il
ça.
Avait pris un paquebot, je crois, un truc comme ça, pour pouvoir mettre toute l'équipe dessus. Donc, pour qu'il soit isolé.
Je serais pas étonné que pour le coup, là, il y a un vrai effet Covid de budget qui a explosé, parce qu'ils sont plutôt malins, tu vois, le fait que même Top Gun 2 n'ait pas coûté extrêmement cher par rapport à un blockbuster. Je trouve que, tu vois, Fallout qui a coûté 180 millions, c'est
ça? C'était la même période finalement, parce que Top Gun, c'est juste qu'il a été énormément retardé au niveau de sa sortie, mais il a été tourné dès 2019 en fait. Il y a eu quelques reshoots en 2019 parce qu'il devait sortir à ce moment-là, ils l'ont un peu reshooté. Et en 2020, il y a eu le Covid, donc ils l'ont retardé. Mais en soi, le film était dans la période où il a été tourné vaguement au même moment que Mission Impossible 6, donc c'était cohérent qu'il coûte à peu près ce prix-là. Finalement.
Non, mais quand tu vois Fallout, le spectacle qu'il te donne avec un paquet de décors, un paquet de scènes d'action, avec un budget sous les 200 millions, alors que celui-là qui est quand même beaucoup plus chiche en action et plus en parlotte et en échant contre champ, c'est sûr que c'est un peu suspect.
Et du coup, bon, là, les chiffres sont assez parlants, puisque souvent Mission Impossible est une saga qui finalement a jamais trop cartonné sur le sol américain et elle repose beaucoup sur l'international. En l'occurrence, c'est environ pour la plupart des volets 70% de ses recettes. Là, pour l'instant, alors même si le film n'a pas encore fini son exploitation, on est à 375 millions, ce qui est quand même très en dessous des 487 de Rogue Nation et surtout des 571 millions de Fallout. Là où le box-office US, justement, pour l'instant, il est à 165 millions, ce qui est très en deçà des 195 de Rogue Nation et surtout des 220 de Fallout. Ce qui fait que pour l'instant, le total mondial, il est à 540. Les estimations disent qu'il devrait arriver aux 600 millions, mais du coup, on est quand même très loin des 800 millions qu'a priori, il devrait atteindre s'il voulait au moins se renflouer. Et à titre de comparaison, du coup, Rogue Nation, c'était 682 millions de dollars de recettes mondiales. Et Fallout, qui était jusque-là le grand carton de la saga, si on n'ajuste pas à l'inflation, ou c'est Mission Impossible 2 qui reste le plus gros carton, c'est 790 millions pour Fallout. Donc on est quand même très en dessous. Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que Mission Impossible, c'est le cas du film qui s'est retrouvé un peu malheureusement pris en sandwich par plusieurs films, et notamment Barbie et Oppenheimer, qui sont arrivés une semaine à peine après lui. Mais forcément, le côté prestige de Tom Cruise repose beaucoup aussi sur les salles dans lesquelles tu dois aller voir le film. Et le grand combat de Mission Impossible 7, ça a été qu'il n'a eu qu'une semaine pour exister sur les salles premium et notamment les salles IMAX, qui d'habitude aident, comme c'est des salles qui coûtent plus cher, à te rapporter plus d'argent. Et justement, en plus, Tom Cruise, à l'époque, juste avant la sortie du film, a un peu bataillé avec Paramount pour que la vie de Mission Impossible 7 soit plus longue en IMAX, là où IMAX voulait surtout mettre en avant Oppenheimer, puisque Nolan tournait avec des caméras IMAX, mettait vraiment en avant l'IMAX, là où Mission Impossible était optimisée pour de l'IMAX. Tom Cruise, il n'est pas mal. Et à rappeler que Top Gun 2 a rapporté 100 millions juste sur les recettes de l'IMAX. Donc pour lui, c'était quand même très important. Et au final, Mission Impossible 7 n'a eu qu'une semaine et quelques de vie en IMAX dans la plupart des salles du monde, avant qu'Oppenheimer ne les prenne quasiment toutes. Donc lui estime que c'est un autre manque à gagner qui a été conséquent, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui n'a pas aidé. Et vraiment, malheureusement, le film, c'est un peu la tragédie, c'est qu'il s'est retrouvé quand même pris après la sortie assez catastrophique de Flash, Élémentaire, mais tous ces films-là et d'Indiana Jones. Et quand lui est arrivé, il a eu à peine une semaine pour essayer de briller avant que Barbie et Oppenheimer ne débarquent. Et comme en plus son démarrage était décevant et que sa chute en deuxième semaine a été drastique, a priori, voilà, le film va être un bon gros bide et c'est assez décevant pour lui.
Une sorte de punition des dieux pour Fast and Furious et pour Mission Impossible.
Il y a un autre cas qui est un peu similaire comme ça, d'un film qui aurait presque pu d'ailleurs être un succès, mais qui là était vraiment très dépendant de son budget, c'est encore chez Disney, La Petite Sirène.
Ouais, il a coûté 250 millions au moins, alors je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'était de Déborah, ça ne ressemble pas à un truc à coûter 250 millions. Et il a fait 567 millions au box-office, donc quasiment 300 côté domestique. En fait, là, c'est encore un cas intéressant de... On n'est pas dans une franchise parce qu'il n'y a pas 43 films à Petite Sirène. Et en même temps, c'est la franchise qui s'appelle Disney, des remakes en prise de vue réelle, des live action. Et en gros, c'est le deuxième plus gros budget de tous ces remakes après Le Roi Lion. Sauf que Le Roi Lion, lui, il a fait 1,6 milliard.
Boom.
Donc en fait, c'est ça, c'est encore un cas de... si tu le prends de manière isolée, c'est à peu près OK, c'est pas une catastrophe. Mais quand tu l'inscris vraiment dans le patrimoine dans lequel il est, dans l'énorme écosystème, des trucs qui brassent plein de thunes, des marques, des propriétés intellectuelles et qui doivent rapporter des trucs comme genre le milliard, du coup, c'est pas du tout à la hauteur. Donc là, c'est intéressant de te dire, c'est vraiment la machine à trop créer de remake. En fait, il n'y a plus trop d'événements, quoi.
Oui, là, tu vois, pareil, c'est un peu l'impact de ces films-là, où tous ces films-là, avant le Covid, ont cartonné. Le Roi Lion, Aladdin et compagnie, c'était qu'il n'y avait aucun échec.
Il y a un âge d'or qui a duré un mois et demi. Mais...
Et en fait, là, ils se sont dit, c'est bon, on y va. En plus, là, on ressort le deuxième âge d'or de Disney. Tu prends le film qui a un peu ramené ça, d'ailleurs, avec La Petite Sirène. Tu te dis, c'est bon, c'est calé. Et en fait, non.
Oui, puis là, en plus, il y avait vraiment ce truc de on attire sur la nostalgie de La Petite Sirène de 89. On te reprend les mêmes chansons et tout ça. Enfin, il y avait vraiment une volonté d'attirer là-dessus. Donc au final, ça coûte si cher, il y avait autant d'espoir dessus, surtout que là, c'est on laisse de côté le Manoir Hanté qui a un remake, mais pas d'un film d'animation. Mais sinon, tous les précédents étaient sortis sur Disney+, que ce soit le Pinocchio de Zemeckis, Peter Pan et tout ça. Donc là, c'était censé être le retour de quelque chose qui avait bien fonctionné en 2018-2019 et qui, au final, s'effondre, alors que c'est très cher quand même. Et puis vraiment, pour ce à quoi ça ressemble, c'est indécent.
Surtout quand on se souvient que Mulan avait été l'un des gros enjeux pendant le Covid du film qui devait sortir en salle, où finalement Disney a dit... Oh, on veut bien le sortir en sol, mais en fait, on va aussi le sortir sur Disney+, donc prenez ça dans le cul et démerdez-vous. Et en fait, là, La Petite Sirène était censée ramener ça en force en prouvant que ça marche toujours et que ça intéresse les gens et les exploitants de salles, et qu'en fait, pas tant que ça.
Alors, c'est sûr que ça fait moins donc, que Le Roi Lion, Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête, qui ont tous fait le milliard ou quasiment le milliard pour le Livre de la Jungle, ce genre de trucs, donc des gros cartons. Et en même temps, avec quasiment 570 millions, c'est mieux que Dumbo, le Tim Burton, qui avait fait 350 millions. C'est mieux que Alice de l'autre côté du miroir, 300 millions. C'est mieux que Maléfique 2, qui avait fait même pas 500 millions. Donc l'un dans l'autre, tu vois, c'est là qu'on relativise. On se dit, c'est sûr, il a coûté plus cher que ces trucs-là, un peu plus, voire beaucoup plus. Et en même temps, il a limité la casse. Et peut-être, encore une fois, c'est sur Disney+, que ça aura une valeur, quoi, que ça va être juste un produit de plus qui va peut-être faire rayonner auprès des familles qui veulent occuper leurs gamins.
Super.
Traumatiser leurs gamins.
Maltraitance.
Et enfin, il y a quand même le dernier cas de flop qui, là aussi, un peu à relativiser, mais qui en est quand même un, c'est justement Transformers Rise of the Beast, donc 7e opus des robots d'Hasbro, qui lui aussi, alors forcément, c'est un Transformers, donc comme tu as beaucoup de robots en CGI, ça coûte cher à faire, donc c'est autour des 200 millions de budget. Donc là, pareil, au moins 600 millions pour se renflouer. Et personne ne s'attendait à un gros démarrage pour Rise of the Beast. Et au final, c'est un peu le problème de Rise of the Beast, c'est qu'il a plutôt pas trop mal démarré, surtout par rapport à ce qu'était Transformers depuis quelques temps. C'est-à-dire que, pour rappel, Transformers, c'est pente ascendante jusqu'au 3 et 4 qui dépasse le milliard, où tout le monde se dit, c'est bon, c'est la marque de Paramount. Les mecs, ils se disent, c'est bon, on se sent plus pisser, on lance une writer's room, on va faire des spin-offs, on va faire 10 000 trucs.
Mais ce temps-là, le public fait des AVC à la chaîne dans les salles,
c'est
à cause du 3 et du 4.
Et puis, t'as Transformers 5 qui sort, le dernier Michael Bay, 600 millions de dollars au box-office mondial. C'est considéré comme un gros bide, surtout par rapport au potentiel de la saga qui devait relancer tout après être plus ou moins, enfin pas un reboot mais une expansion de la franchise. Et du coup, comme ils avaient Bumblebee, le spin-off sous le bras, ils se sont dit bon bah on va au bout. Mais Bumblebee coûtait beaucoup moins cher, coûtait dans les 120-125 millions à produire, ce qui fait que le Bumblebee avait été un semi-bide, mais ça allait. Et en fait, c'est ça le vrai problème, c'est que Bumblebee avait quand même rapporté 468 millions de dollars lors de sa sortie en 2018, là où Rise of the Beast a fini son total à 436 millions, alors qu'il a coûté beaucoup plus cher. Donc c'est considéré comme un gros échec. Et là aussi, c'est un peu un problème, parce que non seulement le public américain s'est pas mal désintéressé, même s'il a un peu mieux démarré que le 5 et que Bumblebee, on est quand même très en dessous. Et surtout, il faut vraiment se dire que, surtout quand tu prends avec l'inflation, les chiffres de Transformers, c'est parfois mais vraiment, vraiment affolant. C'est-à-dire que là, tu vois, même le box-office international de Rise of the Beast, il est à 280 millions, là où Bumblebee était à 340. Donc ça, c'est une grosse perte quand même. C'est-à-dire que le public américain se désintéresse, mais surtout le public à l'international s'en désintéresse aussi. Et ce qui est assez génial, je trouve, comme comparatif, c'est que le score total de Rise of the Beast est quasi similaire au score international seul de Transformers 2, qui était de 434 et qui avait fait un total de 860 à l'époque. Et c'était quand même, voilà, c'était des trucs absolument énormes. Donc après, comme je le disais plus tôt, a priori, la vente de jouets d'Hasbro a pas mal profité, et le film a pas mal pris quand même d'écrans donc PLF, donc Premium Large Format, comme le disent les Américains, au moment de sa sortie, détrônant d'ailleurs Spider-Man qui était sorti une semaine avant là-dessus. Donc ça l'a un peu aidé quand même un peu à sauver les meubles, mais voilà.
C'est-à-dire qu'il y a encore moins de gens qu'on pourrait croire qui l'ont vu, puisqu'ils ont payé plus cher.
Bah, c'est ça, tu vois. Et donc là, on est très très loin de ça sur
mais Price quand tu mets Fast and Furious, Mission Impossible et Transformers d'un côté des autres, tu te dis bah ouais, c'est compliqué de pas parler d'usure et de date de péremption des sagas. Arrivé à l'épisode 6, 7, 8, bah peut-être qu'en fait les gens en ont ras-le-bol, parce que bah il suffit qu'il y ait un autre produit d'appel qui arrive à côté qui a l'air d'être nouveau et original, genre Barbie, pour que les gens se disent bah ouais, en fait je vais plutôt aller voir à côté, parce que bah c'est la même soupe. Et c'est même pas une manière de parler, de dire vieux con c'était mieux avant, c'est juste que bah en fait peut-être qu'ils tirent trop sur la corde de certains
et
trucs.
On l'a quand même vu, parce que le flop majeur des films, on a beaucoup parlé de, enfin c'est vraiment le box office américain à, sur les grosses franchises un peu justement essoufflées, a vraiment disparu. Et Rise of the Beast, je trouve que c'est un cas assez parlant, parce que Transformers, justement, c'est un cas assez ascendant. Et si tu ajustes à l'inflation, le record encore actuel, c'est Transformers 2, qui est à 568 millions de dollars de recettes sur le sol juste américain. Et c'est 157 pour Rise of the Beast. Donc, tu vois, déjà, le truc est juste tellement mais mort. Et alors, t'es même en dessous du premier, qui est quand même, tu vois, le premier démarrait et avait fait a priori 700 dans le monde et 460 juste aux États-Unis si t'injustes à l'inflation. Et là, tu te dis que Rise of the Beast, qui pourtant était censé être le soft reboot, il n'y a plus Michael Bay, donc certaines personnes qui aiment vraiment la franchise se sont dit c'est bon, on peut revenir tranquillou. Au final, non, ça ne suit pas. Et pourtant, c'était censé être l'une des grosses machines de cet été pour Paramount avec Mission Impossible. Et ça n'a pas suivi.
Il y a une donnée aussi qu'il faut qu'on remette sur la table, c'est les films dont le succès repose non pas sur le démarrage et le box-office initial, mais sur la durée, des trucs comme Top Gun, par exemple, pour montrer qu'en fait, le succès se joue vraiment plus seulement, voire pas du tout sur le démarrage, mais sur vraiment l'engagement sur la durée du public qui va continuer à aller le voir, le revoir et emmener tous ses potes et toute sa famille.
Ah, c'est même un peu le problème qu'on a perçu là avec tous les films qu'on vient de citer plus tôt, c'est que en fait, on s'est tellement habitué à ce que les franchises dépendent de l'appartenance des fans, de l'envie des fans d'être là la première semaine, qu'en fait, tu calcules tout ton succès de ton film sur la première semaine. Et on s'est vraiment habitué depuis pas mal d'années maintenant à ce que, en gros, un succès se calcule totalement sur la première semaine, et que faire plus de 50% de chute de fréquentation dès la deuxième semaine, c'était pas si grave en fait. Comme si c'était normal que, avec un Avengers, même Endgame, tu vois, c'est juste ton démarrage est gigantesque, mais tu redescends très très vite. Et le problème, il est là en fait, c'est que on a perdu l'habitude du bouche à oreille et du fait qu'un film puisse tenir sur la durée, alors que pourtant, tu citais Top Gun, c'est un cas évident, Avatar c'est pareil, et même sur des plus petits films en 2022 comme Everything Everywhere All at Once, qui a été le petit miraculé comme ça, tu vois, le petit film, mais qui a tenu, qui gagnait quasiment la même somme chaque semaine au box-office, c'est assez hallucinant. Et pour le coup, ce bouche à oreille là, il a quand même aidé à sauver plusieurs films cette année, et notamment il y en a un qui est un peu celui où il était un peu entre deux eaux, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3, donc l'autre gros film Marvel pour l'instant de cette année, qui est techniquement un succès puisqu'il a dépassé les 800 millions de recettes, mais en fait Le budget lui aussi était gigantesque, il était à 250 millions estimés, ce qui est proprement gargantuesque même pour des films Marvel, alors que bah, tu vois, les deux premiers étaient à 170 et 200 millions à peu près, et surtout il a fait un démarrage en dessous du deuxième, il a fait un démarrage supérieur au premier mais en dessous du deuxième qui était en plus à ce moment là la marque un peu naissante que personne connaissait trop chez Marvel, donc c'était quand même considéré comme une très légère déception, mais au final il est descendu de 47% en deuxième semaine et surtout il s'est pas mal maintenu, et comme les critiques ont été très bonnes, surtout après Ant-Man 3, bah le film a vraiment réussi, tu vois, à garder ce truc-là, et à dépasser finalement les chiffres du premier, pas à dépasser les chiffres du deuxième, donc c'est pas non plus le méga méga carton, mais Marvel a réussi à trouver un équilibre là-dessus. C'est juste que comme le film là encore a coûté extrêmement cher, les gens commençaient à craindre, est-ce que même lui va pas réussir à se rembourser, est-ce que même là Marvel va pas considérer que c'est un échec, alors qu'en plus c'était la fin de franchise, enfin la fin de saga des gardiens, avec la promesse de la fin de ces personnages-là, et donc du côté très émouvant que le film promettait, et qui au final a quand même plutôt bien marché. Mais il y a un autre cas qui est peut-être encore plus intéressant, parce que pour le coup, lui, c'est vraiment le miraculé, le comeback de l'été, c'est Élémentaire.
Non, mais Élémentaire, c'est vraiment le vrai spin-off de Rocky.
Elle l'a casé, Stallone.
Non, mais c'est vrai, il partait vraiment comme l'outsider, c'est-à-dire que, bon, bah, déjà, voilà, il arrive dans un contexte un peu d'essoufflement de la marque Pixar, où, bah, déjà, il y avait eu la série de sorties sur Disney+, qui ont un peu refaçonné les habitudes de consommation du public, et ça, le studio, les producteurs, les financiers en sont parfaitement au courant, puisqu'ils en ont déjà plusieurs fois parlé, du fait qu'au final, ils payent un peu leur stratégie pendant le Covid. Et là, Élémentaire arrive, et il réalise pas moins que le pire démarrage de l'histoire de Pixar. Donc Pixar qui existe depuis quasiment 30 ans.
Pire que Buzz l'éclair.
Pire que Buzz l'éclair. Et j'ai pas trop envie de m'enfoncer dans les chiffres parce qu'ils sont vraiment catastrophiques. Mais c'est 29 millions aux États-Unis. Pour dire, Buzz l'éclair, donc, qui était jusqu'à présent, enfin qui est un des plus gros flops de l'histoire de Pixar aussi, il a démarré à 50 millions.
Ouais, d'accord.
Donc on est quasiment à la moitié. Ouais. Donc vraiment la plantade de départ. Donc forcément avec un truc comme ça, bah oui, vu qu'on est un petit peu conditionné à beaucoup calculer ou à être beaucoup influencé par le démarrage, on s'est dit bon bah voilà, il continue la pente descendante. Et il s'est passé un truc. C'est ce bouche à oreille. Et alors Antoine, juste avant, tu parlais des baisses auxquelles on s'est finalement habitué. Et là, en fait, le film a enregistré des baisses, mais vraiment risible de moins de 20% en deuxième semaine, ce qui fait qu'en fait il s'est très très bien maintenu et aujourd'hui il a un total de quasiment 460 millions de dollars au box-office mondial, en sachant que Jim Morris, le président de Pixar, au début du mois d'août, avait donné une interview dans laquelle il disait que globalement à 460 millions le film était rentable et c'est ce qu'ils attendaient. Si c'était un peu plus près des 500 millions du demi-milliard, ils seraient contents, mais en tout cas le film n'est pas un flop alors qu'il partait pour être le pire flop de l'histoire du studio.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est pas un succès, si je comprends bien, mais juste
c'est tiède.
Dans l'absolu, s'il n'y avait pas eu en fait, s'il avait fait un démarrage beaucoup plus élevé et qu'il était resté à ce résultat, on serait dit que c'est un flop. Mais comme il a descendu, il était tellement bas au départ, on analyse le truc en disant, tu sais, c'est une courbe intéressante qui en fait un espèce de.
Sans dire la mode de cet été d'ailleurs, tu vois, c'est ça qui est presque pertinent, c'est de se dire, au final, on s'est presque habitué à ce que certains films fassent des démarrages tellement bof qu'on s'est dit, oh, finalement, ça va.
Oui.
Et là, Élémentaire, c'est totalement
c'est
ce cas-là.
Relatif, ouais.
C'est parce que le film en lui-même, on n'est pas encore sur les succès qu'il y avait avant la pandémie, que ce soit Coco ou vice-versa, qui eux allaient plutôt chercher dans les 800 millions au box-office mondial. Donc là, on était vraiment sur des gros poids lourd, mais on est quand même sur le plus gros succès depuis la reprise pour un film d'animation de Disney Pixar. C'est plus que Buzz l'éclair, c'est plus que Avalonia qui est
c'est plus que tous les cadavres de Pixar.
Un sujet à part, mais qui est juste cataclysmique niveau résultat pour Disney. C'est plus qu'Encanto. Et on est même au niveau de Cars ou du Voyage d'Arlo, Cars 3, quoi. Donc on revient, bon, certes au bas du panier des moins bons succès de Pixar, mais on revient dans des chiffres qui étaient faits avant la pandémie. Et vu que Disney et Pixar sont les studios qui ont le plus morflé au niveau de la reprise, vu qu'ils n'ont jamais réussi vraiment à se remettre, en fait elle est là, la reprise de Pixar et de Disney en salle.
Elle est maigre, mais elle est là.
Je me mets tellement à la place du réel, surtout parce que Peter Zohn, c'est lui qui avait fait justement le voyage d'Arlo. Qui était à l'époque d'ailleurs un des plus gros bits du studio. Et donc là, le fait que tu vois, il soit potentiellement dit au démarrage, oh putain, j'ai le deuxième plus gros bit derrière, tu vois. Et en fait, ça va. Je pense même lui d'ailleurs, il a vu les premiers articles sortir pour dire finalement Élémentaire est plutôt un succès. Il était le premier à faire genre à mettre des cœurs sur Twitter et des trucs comme ça. Faire, genre...
Oui, c'est vrai que je disais au tout début de la réu que je trouvais que vraiment le beat d'Élémentaire était injuste parce qu'il y avait vraiment en plus cette volonté de ramener le caractère événementiel d'une sortie Pixar parce que là justement il avait été présenté hors compétition à Cannes. Il était précédé d'un court-métrage, ce qui n'avait pas été fait depuis Vice Versa, il me semble. Donc il y avait un petit peu ce truc de se dire de ramener le Pixar en salle et ce qui avait été un crash total avec Buzz l'éclair. Bon, en même temps, je pense que les gens comprenaient pas tellement ce qu'ils allaient voir en allant voir Buzz l'éclair et ça, ça a clairement joué contre le film. Mais là, il y a eu le bon bouche à oreille, même si la critique au moment de la projection à Cannes était assez tiède, c'était pas non plus tiré à boulet rouge dessus. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment que cette remontée est belle, parce que c'est une justice.
Et justement, pour rester sur le cinéma d'animation, ça va permettre un peu de commencer à parler des gros succès de cet été et notamment de l'année, à commencer évidemment par l'un des grands grands gagnants de cet été, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Bon, tout le monde attendait au tournant, parce que là aussi d'ailleurs promesse finalement d'un film en deux parties, donc il fallait que le truc gère, et surtout parce que même si le premier, donc Into the Spider-Verse, parce que je refuse de l'appeler New Generation, avait été un succès d'estime, ça avait pas été un si gros carton que ça lors de sa sortie en salle, puisque le film avait à l'époque à peine rapporté 384 millions de dollars de recettes mondiales, là où du coup bah en fait le deuxième a largement dépassé ça, et on voit bien d'ailleurs que le succès d'estime du premier a grandement aidé à lui donner une réputation ultra solide, et, parce que non seulement il a fait l'un des meilleurs démarrages de l'été à 120 millions aux États-Unis, ce qui était très solide avant que Barbie ne débarque, et surtout bah au final là maintenant il est à 680 millions de dollars de recettes, ce qui fait que surtout ce qui en fait un succès important, c'est que par rapport à tous les films qu'on a cités avant, bah, le budget de Across the Spider-Verse est pas gigantesque. Alors, à la base, Sony avait dit 100 millions. Au final, il s'avérait que ce serait plutôt proche des 125-150 millions de dollars de budget. Mais du coup, ça fait qu'à rembourser, c'est forcément bien plus simple que tous les autres films qu'on a cités auparavant et qui justement ont beaucoup galéré là-dessus. Au-delà du coup de la critique qui a été très bonne, du succès qui a été absolument gigantesque et le public qui a répondu totalement présent, il y a aussi le fait qu'à rembourser, c'est quand même beaucoup plus simple.
Et alors là, c'est probablement qu'une impression, mais le film aussi est arrivé dans un contexte pour les super-héros au cinéma qui est assez particulier, où on n'arrête pas de parler entre nous d'une espèce de lassitude qu'on ressent un petit peu, que ce soit au niveau de la critique ou du box-office. Et là, le public avait un peu il y avait la promesse qu'ils allaient voir un petit bijou, quoi, la pièce d'orfèvrerie qu'ils ont attendu plusieurs années, qui a mis vraiment du temps à se faire, à mijoter, et donc vraiment quelque chose de beau où t'en as pour ton argent, tout ça, ce qui s'est un petit peu perdu du côté de Marvel et DC où on a des bouillies complètement infâmes.
Ouais. Et d'ailleurs, ça donne une stat intéressante pour le coup, c'est que c'est le plus grand pourcentage de hausse entre les démarrages pour un film de super-héros entre le premier et le deuxième volet. C'est plus de 240% d'écart.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Par rapport au premier film, en sachant que le précédent record dans cette catégorie-là, c'était The Dark Knight par rapport à Batman Begins, qui était à 224%. Mais c'est gigantesque comme truc. C'est-à-dire que après, ce que tu as en dessous, c'est Doctor Strange 2 par rapport au 1, mais qui a que 120% d'écart, tu vois. Et après, les films X-Men ou des trucs comme ça ont des écarts beaucoup plus bas. Là, c'est un truc, c'est gigantesque en termes d'écart. Maintenant, la question, c'est surtout maintenant que le troisième est repoussé ad vitam aeternam, est-ce que les gens vont être autant impatients de découvrir le 3 quand le 3 sortira, ou est-ce que l'épiphénomène que c'est devenu va un peu retomber comme un soufflet. Ça, on espère que non.
Et comme tu parles de succès, évidemment, il faut qu'on arrive à Barbie et Oppenheimer et Mario d'ailleurs, hein, d'une certaine manière aussi.
Yes. Bah ouais, en plus, premier. Alors là, les deux films sortis, donc la fameuse compétition du 21 juillet aux États-Unis et du 19 en France, donc l'espèce de truc improbable de ces deux mastodontes qui devaient sortir en même temps et où tout le monde prévoyait que les deux allaient s'entrebouffer et qu'il n'y en avait qu'un qui allait pouvoir en ressortir vainqueur. Beaucoup planchaient sur Barbie parce que Oppenheimer étant un drame de 3 heures, même avec la marque Nolan derrière, ça paraissait assez improbable que le film cartonne. Et le miracle est apparu puisque les deux films sont des gros succès et des succès assez improbables. Alors Barbie ayant déjà dépassé le milliard, étant le deuxième plus gros succès de l'année, donc derrière Mario qui pourrait même rattraper en vrai, parce que là il est à 1,2 million et Mario est à 1,3 million. Donc en fait, au vu de son carton, c'est assez possible que le film fasse ça. Et surtout, il a fait le meilleur démarrage de l'année, donc c'est...
Oui, parce que le milliard, il l'a atteint, mais...
En 3 semaines.
Trois semaines.
C'est juste absolument génial.
Le temps de vie de Shazam 2 en salle.
Tu sais, Shazam, il est par terre, et Déborah, elle repasse dessus, elle repiétine à chaque...
Même si, du coup, ce qui est intéressant sur Barbie, c'est que le budget marketing, lui, sera encore plus élevé que ce qu'on estime sur d'autres films, puisque ça a été une véritable machine de guerre avec la maison de rêve construite en taille réelle, la promo marketing.
Achetez-moi la maison.
Ryan Gosling et Margot Robbie qui étaient absolument partout. D'ailleurs, la presse qui n'a pas eu le droit de voir le film aussi, d'ailleurs, mais plus pour les influenceurs
encore
à la place.
Que la presse ne sert à rien.
Parce que ça n'a pas empêché le film d'atteindre le milliard. Et le budget marketing serait estimé à 150 millions, ce qui est vraiment la fourchette très très haute pour ce genre de film-là. Ce qui
est quasiment... Je trouve ça finalement peu.
Bah parce que pour un blockbuster de super-héros, on se dirait que c'est normal. En fait, pour un film comme ça, c'est assez dingue.
Bah
c'est...
Surtout que le film a coûté cette somme-là. Bah en fait, ouais. Le film a coûté 145 millions. Donc, ça voudrait dire même que le marketing est encore supérieur. Et par rapport à tous ces autres films qu'on a cités, bah justement, c'est le cas parfait du film qui, lui, a fait 42% de chute en deuxième semaine et qui s'est extrêmement bien maintenu. Donc, il n'a jamais eu de grosses descentes. Et cas aussi intéressant, c'est un des rares films de l'été qui se partagent à quasi 50-50 entre le box-office américain et le box-office international, ce qui prouve bien que les Américains ont afflué en masse sur ce film-là, plus que sur quasi aucun autre cet été, ce qui est quand même assez impressionnant. Surtout que le box-office américain, à l'heure actuelle, c'est 560 millions et c'est 711 millions à l'international, ce qui est juste énorme. Et il n'y a aucun autre film qui a réussi à faire ça, à part Mario cette année.
Du coup, je pense vraiment que la planète Terre est en dépression, parce qu'entre Mario et ça, qui font un milliard, c'est vraiment genre, il faut que ce soit rose et fuchsia et bleu ciel. Parce
je pense que le film Polly Pocket, il dépassera Avatar 2. Ah, c'est...
Mais le cas presque plus intéressant encore, je trouve que c'est Oppenheimer, parce que alors moi, j'avoue que j'étais le premier à me dire que Tenet étant sorti pendant le Covid, étant d'ailleurs le film qui était censé un peu sauver les salles et qui n'a pas vraiment réussi, on lui avait pardonné beaucoup de choses, mais je me disais ça y est, Nolan voit trop grand et là il se dit que ça va le faire, il fait un drame historique à 100 millions de dollars de budget, il croit que ça va bien se passer et il va le payer très cher et au final pas du tout. Et ça prouve d'ailleurs un truc surtout, c'est que tout le monde a vu Barbie et Oppenheimer comme un peu les antithèses des franchises actuelles, sauf qu'en fait les deux films ont finalement construit une marque autrement. Barbie, bon, étant déjà une marque, celle de Mattel, mais qui n'était pas du tout attractive a priori et qui devait se rendre attractive et qui a réussi à le faire, là où Nolan est déjà une marque en lui-même. Et la question, c'était de savoir est-ce que la marque Nolan se suffit à elle-même et arrive à tenir. Et la preuve est que oui, et que c'est même peut-être le seul auteur américain, avec peut-être un Tarantino, même pas à cette échelle-là, qui arrive à faire des chiffres aussi spectaculaires. Puisque du coup, Oppenheimer, donc déjà meilleur démarrage de Nolan dans le monde, juste pour un film qui n'est pas un Batman, donc juste en dessous de Dark Knight et Dark Knight Rises, mais c'est quand même 82 millions sur le sol américain, ce qui est juste énorme, en sachant que juste Dark Knight avait fait 160, et tout comme Dark Knight Rises d'ailleurs, donc c'est voilà, mais il est juste au-dessus de ces films-là. Celui qui est derrière, c'est Inception avec 62 millions, donc c'est juste ultra impressionnant. Et surtout, là ça y est, il a dépassé les 700 millions de dollars de recettes, et ça fait qu'il est même à 717, ce qui fait qu'il vient de dépasser Interstellar, qui était jusque-là le quatrième plus gros succès de la carrière de Nolan, après les deux Dark Knight et Inception. Donc il peut encore rattraper Inception qui a 830, ça paraîtrait assez improbable, mais il peut le faire. Et s'il le fait, je mange mon chapeau, parce que c'est juste... voilà, film d'action SF avec DiCaprio, t'as a priori, voilà, t'avais tous les ingrédients à l'époque, plus le succès de Dark Knight pour justifier ce succès-là.
Interstellar, moi, je trouve ça dingue. Voilà. Enfin, la promesse Interstellar, pour ce qu'on pense du film, c'est quand même beaucoup plus facile à vendre que Oppenheimer 3 heures, à moitié noir et blanc, avec des gens qui parlent de bombes nucléaires, quoi. Moi, ce qui m'hallucine sur Barbie, t'en parlais, c'est comment ils ont réussi à recalibrer la marque, si tu compares à Donjons et Dragons. Ouais. Ils ont vraiment essayé de... Ok, la marque Donjon Dragon, elle évoque rien pour le commun des mortels. Quand elle évoque un truc, c'est potentiellement le nanar des années 2000. Du coup, faut absolument qu'on repense le truc. Faut qu'on le recalibre, qu'on le replace comme un truc à la Marvel, comme tout le monde a dit. Faut que ce soit drôle, décomplexé, pop, très référentiel. Et ça n'a pas trop marché. Disons que ça ne sait, l'impact, peut-être qu'ils l'ont pas fait assez longtemps, peut-être qu'ils ont pas investi autant que Barbie, en tout cas, ou peut-être que coup de baguette magique qui n'a pas réussi. En tout cas, l'impact dans les salles n'a pas été à la hauteur. Alors que Barbie, pendant des mois et des mois et des mois, ils ont réussi à complètement recalibrer Barbie pour qu'on passe d'un projet de « c'est quoi cette connerie de merde, un film Barbie, jamais géré de ma vie, wesh » à « putain, on va tous y aller, on va tous s'habiller en rose pour y aller et je vais y aller avec tout le monde, quoi ». Mais c'est ouf, moi je voyais des gens autour de moi qui savaient pas ce que c'était, moi qui m'en foutais du film, je devais leur dire « non mais c'est potentiellement intéressant, vu la réalisatrice et tout, on ne sait jamais, ça a l'air un peu malin, regarde la bande-annonce, je me suis retrouvé à faire la promo de ce truc, putain !» Et pour dire « c'est pas ce que tu penses », ça veut pas dire que c'est bien, mais c'est pas ce que tu penses, et l'effet a été hallucinant, quoi. C'est vraiment la réaction en chaîne, et en fait, globalement, tout le monde a entendu parler du film, tout le monde y a été, tout le monde a failli y aller, ou tout le monde y allait quatre fois, quoi.
Il y avait ce truc de Barbie est redevenu cool. Mmh. C'est redevenu un truc un peu fun, sympa, que tu peux te réapproprier. Comme tu dis, tu vas avec tous tes potes, vous mettez tous d'accord pour vous habiller en rose. En plus, c'est un truc qui s'est fait assez naturellement. Il n'y a même pas eu des grands appels des producteurs ou de Margot Robbie qui étaient en mode venez tous en rose. Non, ça s'est fait vraiment naturellement. Je trouve que peu importe ce qu'on pense du film ou même ce qu'on pense du marketing, il y a du génie derrière. Et ce génie s'appelle Margot Robbie. Sûr. Voilà.
Alors, je dirais pas que c'est que elle. Okay. Je pense qu'il y a un grand génie et cynisme de génie chez Mattel et chez Warner pour avoir réussi à vendre ça de cette manière et en créer une espèce d'événement pop culturel comme un Black Panther ou comme un Wonder Woman à l'époque. C'est-à-dire que c'est devenu un relais, un truc que les gens s'approprient, même les intellectuels qui veulent réfléchir le cinéma, réfléchir l'impact social et politique d'un film.
Bon, par contre, quand c'est Eric Nolot en France, merci quoi.
Et tout en offrant un vrai divertissement à tout un tas de gens qui s'en foutent un peu de ça, mais qui y vont et ont aussi leur spectacle, ce que des films comme Fast and Furious et Mission Impossible ont peut-être perdu. C'est-à-dire que je trouve que la consommation vraiment superficielle, quand tu veux pas forcément réfléchir sur le moment, sans poser ton cerveau, que tu veux vraiment te dire comme un bon Pixar, tu as les deux côtés, tu peux switcher dans ta tête, tu peux le revoir, tu peux le réfléchir, t'amènes des enfants, t'amènes des adultes et tout, et Barbie a réussi à faire un truc, le cul entre 3-4 chaises comme ça.
Et c'est même, tu vois, cette fraîcheur-là, et ce côté même un peu plus malin, il est d'autant plus fantastique que, du coup, Barbie a réussi à dépasser le milliard, sans avoir du tout le soutien justement des salles premium, parce que du coup il y avait Oppenheimer en face, et pour le coup Oppenheimer s'est entièrement vendu, parce que c'est le credo de Nolan depuis toujours maintenant, c'est la pellicule, c'est l'IMAX, c'est je tourne en pellicule IMAX 70mm, et il n'y a qu'une poignée de salles dans le monde, 30 pour être précis, qui peuvent diffuser le film comme ça. Si tu veux voir le film dans des conditions optimales, il y a différents visionnages possibles, là où Barbie du coup n'avait aucunement ce soutien là, et d'habitude les salles premium tu y vas soit pour une expérience très particulière comme Oppenheimer, mais tu y vas surtout pour le grand spectacle, c'est à dire que tu vas voir un film en Dolby parce que tu veux voir Avatar dans les meilleures couleurs possibles en 3D, tu veux voir Fast and Furious qui pète dans tous les sens, et là en fait Barbie n'a pas eu besoin de ça pour dépasser le milliard, alors que d'habitude vraiment la hausse du prix du ticket sur les salles premium aide grandement à la vie d'un film, surtout d'un blockbuster, donc ça prouve bien effectivement que Barbie n'avait pas besoin de ça pour cartonner. Là où Oppenheimer pour moi m'impressionne encore plus avec ça, c'est que ça faisait des années, tu vois, que Nolan défend cette idée du 70mm, de la présence de l'IMAX et de ce genre de choses-là. Et je me demandais à quel point le public était réceptif à ça. Et en fait, là, c'est la preuve définitive que c'est le cas, puisque on le voit par exemple en France, où la seule salle parisienne qui a la copie 70mm, c'est le Grand Rex qui a fait salle comble pendant des semaines avec la copie et qui l'a même gardée plus longtemps. Et c'est le cas aussi aux États-Unis, où les salles IMAX ont retardé l'arrêt des séances d'Oppenheimer en IMAX. Et pour donner un chiffre qui est quand même ultra spectaculaire, donc il y a 30 salles IMAX 70mm dans le monde, ces 30 salles à elles seules, en maintenant 5 semaines, ont récolté 17 millions de dollars à elles seules. Ça représente à peu près 20% du succès d'Oppenheimer, ce qui est juste un record pour la marque. Et donc visiblement, ils n'ont pas voulu garder Mission Impossible en IMAX, ils ont bien fait de garder Oppenheimer parce que clairement Nolan met en avant l'IMAX et arrive à en faire un objet important, aussi important que la marque que lui-même représente, et ça c'est absolument fantastique.
Mais ce que je trouve un peu dingue, c'est ce que tu dis, c'est que d'un côté on célèbre parce qu'on se dit ah c'est pas une franchise, c'est Coppola ou je sais pas qui disait oh on a des films qui sont pas des suites et tout qui marchent. Alors on l'a dit, Barbie ça sera pas nulle part, hein, tout le monde sait ce que c'est le prototype de la marque absolue qui est juste décliné de 25 000 manières différentes. Et on célèbre Nolan parce que tant mieux. Et en même temps, il prouve à lui-même qu'il faut être une marque pour marcher et que les marques, elles ont une durée de vie qui est limitée puisque même Spielberg n'est plus une marque et n'arrive plus à attirer en salle. Donc en fait, c'est à la fois la célébration et la confirmation qu'il faut une marque pour que ça marche. C'est juste que tu choisis la niche de marque que tu as. Soit c'est Nissan, soit c'est un jouet, soit c'est un jeu vidéo, soit c'est une personne. Maintenant, c'est peut-être moins les stars, actrices, acteurs qui marchent. Mais du coup, Nolan, tant mieux pour lui parce que ça a fait une niche qui est vraiment assez précieuse. Et en même temps, c'est la confirmation qu'il faut une niche, il faut une marque. En fait, peu importe la marque que tu as, il faut une marque. Sinon, il n'y a rien.
Et justement, ça amène un truc que je trouve assez intéressant et qui est peut-être une bonne manière, tu vois, de mettre justement un peu de nuance sur cette question de est-ce que 2023 est une année catastrophique pour le cinéma, c'est que même du point de vue des studios, finalement, on capte quand même une sorte de rééquilibrage. C'est-à-dire que, à l'exception de Disney, qui est très clairement le grand, grand perdant de l'été, parce que de toute façon, ils ont investi beaucoup trop d'argent dans des films qui ont tous plus ou moins bidé, ou qui ont été des déceptions par rapport à leur succès précédent, la plupart des studios ont fait des erreurs, mais ont aussi eu des succès. Ce qui, en fait, arrive tous les ans, c'est que bah, tu paries sur des films, et puis tu vois si ça marche ou pas. Le cas, je pense, le plus évident, c'est Universal, qui, justement, d'un côté, les succès énormes de Mario et d'Oppenheimer, mais qui, d'un côté, se plante avec Fast and Furious, Ruby et Demeter qu'on a évoqué plus tôt, et l'autre cas qui est assez amusant là-dessus, c'est évidemment Warner qui d'un côté se tape le plus gros beat de l'année avec The Flash, mais qui a le succès monstre de Barbie en face. Donc, qui prouve d'ailleurs que les super-héros auront peut-être moins le vent en poupe qu'on ne le croit par rapport aux poupées
chouette,
de Mattel.
On va avoir 45 films Barbie maintenant. Ouais.
Ouais, encore là pour l'instant on a que le démarrage de Blue Beetle, on n'a pas encore le bilan, mais ça va être piquant.
Qui a enfin détrôné Barbie de la première place du box-office américain, mais sur sa cinquième semaine, et surtout, il a fait 25 millions, là où Barbie en a fait 21 sur sa cinquième semaine, donc c'est juste misérable en fait.
Le film a coûté 120 millions quand même, petite précision, voilà.
Mais en fait, du coup, moi, c'est un peu la question plus globale que j'aurais envie de poser par rapport à ça, c'est que, du coup, si on considère que peut-être Spielberg et Lucas avaient un peu raison, du moins, tu vois, que c'est peut-être plus la peine d'investir 300 millions dans Indiana Jones ou dans The Flash pour respecter ce renfloué. Moi, ce qui me semble bizarre là-dedans, c'est que quand on est arrivé en 2022, il y a quand même eu, on l'a nous observé, on sortit du Covid, et il y a eu quand même eu une sorte d'épiphénomène, on avait envie de retourner en salle de cinéma, le public avait envie de revenir. Sur certains films qui ont été particulièrement bien marketés comme Top Gun, qui ont fait des succès inespérés, mais alors qu'il y a plein de films qui avaient été retenus très longtemps, finalement, leur arrivée en salle a quand même très bien marché, et y compris pour des petits phénomènes comme Everything Everywhere All at Once. Est-ce que finalement on peut considérer que 2022 a été un épiphénomène et que 2023 remet un peu les pendules à l'heure et que en fait les gros blockbusters un peu faisandés ou de franchises très installées ou trop installées depuis très longtemps n'ont plus forcément le vent en poupe?
Moi j'ai vachement mal à me positionner là-dessus parce qu'à chaque fois je me dis on a tendance à, je dis on notamment écran large et les médias, hein, les commentateurs sportifs du box-office, à très vite dramatiser en se disant il se passe un truc, il y a un phénomène qui se passe, c'est en train de switcher, on va en avant, on va en arrière. Honnêtement, je sais pas, et quand tu regardes chaque année, si tu regardes les 10 dernières années, chaque année il y a plein de bides et il y a plein de succès. Du coup j'ai vachement mal à me positionner, à me dire là c'est pire, là c'est mieux, on a quand même deux films qui font un milliard, chaque année il y a des films qui sont un peu étonnants, comme tu le disais, chaque année il y a deux qui bident, donc je ne sais pas s'il se passe un truc spécial cette année. Moi je sais pas du tout.
Je sais pas tellement non plus. Oui, on a déjà vu des années même assez récemment, 2016 ou quoi, qui n'étaient pas forcément des années incroyables. Peut-être que en 2029, en regardant la décennie en arrière, on remarquera vraiment qu'il y a des tendances qui se dessinaient. Pour l'instant, oui, je trouve ça peut-être encore un peu tôt, parce qu'à chaque fois, tu peux trouver des contre-exemples à une vérité qui semble se dessiner.
Après, moi, j'ai quand même la sensation, tu vois, qu'en particulier, donc, des films comme The Flash, Indiana Jones, ce dont ils ont souffert, c'est vraiment de supposer que le bagage émotionnel du public est suffisamment fort, et voire suffisant, dans le cas notamment de The Flash, où il suffit que tu fasses popper le Batman de Michael Keaton et dire, le pointer du doigt et dire, c'est bon, ça suffit, on a notre public en salle et t'as... Même si t'en fais rien, en fait, tu supposes que le public sera là. Et de pas comprendre même ce que Marvel avait réussi à faire avec les Avengers, qui était de construire une hype au fur et à mesure et de dire si t'as vu 10 ans de films, quand t'arrives à Endgame, t'as une sorte de récompense parce que justement, oui, t'auras tout le bagage émotionnel qui va te revenir en pleine gueule, mais justement, on va tout raccorder, on va combler les arcs narratifs d'à peu près tout le monde. Là, t'arrives sur Indiana Jones et The Flash, et surtout, déjà des franchises qui des fois sont très vieilles ou qui mènent nulle part dans le cas de DC, et tu supposes qu'en fait ça va suffire. Mais je pense même dans le cas de Marvel, tu vois, Ant-Man 3, c'est un peu le même problème à dire on refait un méchant à la Thanos, et en fait ça suffit pas, tu peux pas juste dire on va refaire un nouveau cycle et supposer que les gens seront là comme ils étaient là à l'époque.
Mais après, tu vois, Par exemple, pour Spider-Man No Way Home, c'était clairement ce sur quoi le studio s'attendait. Quoi. Oui. En gros, jouer sur la nostalgie, ça va fonctionner parce que les gens ont envie de voir la réunion des trois Spider-Man, parce que tout le monde a grandi avec la trilogie de Raimi, tout ça, tout ça. Et au final, bah, ça a fonctionné.
Il y a un truc que je trouve amusant, mais c'est surtout sur Mission Impossible et Fast and Furious que je trouve quand même vraiment être les preuves qu'ils ont beaucoup trop... cru en leur marque parce qu'ils ont écouté les signaux des dernières années et pourtant ont atteint une sorte de plafond de verre. En fait, c'est comme Marvel d'ailleurs qui, en touchant le pic du pic avec Endgame et Infinity War, se sont dit qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on continue avec la même recette alors qu'en fait, peut-être qu'il faut en apparence changer la recette. Il y a quand même ce truc de... Les gens aiment qu'on leur resserve la même soupe si on veut faire dans la caricature et je nous mets dans le même panier, mais en même temps, il faut quand même donner l'illusion qu'il y a une petite variation. Et c'est-à-dire que Mission Impossible et Fast and Furious n'ont pas été capables de proposer la moindre illusion d'un renouveau. Leur seul effet d'annonce, c'est en deux parties, c'est bientôt la fin. Mais c'est pas la fin. Ouais. Autant te dire, c'est du foutage gueule absolu.
Et ça m'amène, moi, sur une autre réflexion. Alors, j'y vais vraiment au doigt mouillé et c'est une sorte de réflexion un peu sociétale qui vraiment un truc que j'ai l'impression d'observer, mais qui n'est pas du tout scientifiquement prouvé ni rien. C'est que ces films-là, avec en plus cette inflation des budgets, même si le public est souvent pas conscient que ça existe, tu vois, il y a cette sensation de grandeur, il y a cette sensation de truc énorme qu'on nous a vendu. Alors que tu vois, justement, l'année dernière, le succès d'un film comme Everything Everywhere prouve qu'il y avait ce besoin d'un truc pop, mais à plus petite échelle. Là, on est sur des films tellement massifs, tellement énormes, alors qu'on traverse une crise financière et t'es face à des films gigantesques qui font comme si, en fait, tout allait bien et qui d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que je m'interroge sur l'impact du Covid là-dessus, c'est qu'on a eu un an de on sort du Covid, c'est bon, on profite, on retourne en salle, on revit la vie culturelle et notre vie sociale comme avant et au final pour se dire, oui en fait c'est plus comme avant. Et là on est de retour sur des trucs et t'es face à Indiana Jones qui coûte 300 patates, t'es face à Mission Impossible et Fast X qui sont en deux parties et qui te promettent la lune, mais toujours dans cette idée, tu vois, de consumérisme total alors qu'au final, est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin et ce qu'on veut d'ailleurs, y compris dans le domaine du divertissement.
Ah, c'est vraiment, je dirais le contraire, parce que ces films-là, pour moi, sont caractérisés par un espèce de premier degré ridicule de leur histoire, de leur univers, et les cartons de Barbie et Mario montrent à quel point les gens ont soif d'un truc qui, justement, il me semble, sont une espèce d'utopie totale, de contre-réalité, du rose bonbon, du plastoc partout et de la couleur à tous les étages, et qui n'ont absolument aucun premier degré. Alors, on peut prétendre que Barbie est sérieux sur le féminisme, ça c'est encore un autre débat, on n'a pas assez de temps devant nous, mais... ils prétendent rien d'autre que de t'offrir du divertissement de qualité, du divertissement pur. Alors que franchement, moi, ce qui me fout hors de moi avec Mission Impossible et Fast and Furious, et même The Flash, mais surtout Fast and Furious et Mission Impossible, c'est qu'ils se prennent au sérieux à tel point qu'en fait, c'est quasiment comme si ça court-circuitait le divertissement et le plaisir innocent. Mmh. Ils passent leur temps à te hurler, c'est sérieux, on réfléchit sur les IA. On réfléchit sur la mort et en fait le monde il va falloir le sauver, les gens se retournent dans la caméra avec un premier degré pas possible et tout. Mario à aucun moment il te fait croire qu'il y a un truc intelligent et Barbie passe son temps à te dire qu'elle est intelligente, qu'elle a des trucs à raconter dans le film, mais avec vraiment tout le cirque du divertissement. Et du coup le succès hallucinant de ces deux films me donne plutôt l'impression que vraiment il y a une envie d'évasion et d'annihilation de la réalité, quoi.
Non mais dans ce cas, pourquoi Donjons et Dragons n'a pas fonctionné?
Ah bah ça c'est parce qu'après c'est pas une science exacte, hein, mais... Ah. Oui, bonne question, ouais.
Dans tous les cas, il y a quand même une leçon qui a visiblement été retenue des studios, et je pense que ça aussi, c'est un sujet qui sera très intéressant à étudier dans les années à venir, c'est que de ces flops conséquents qu'ont eu notamment les très grosses franchises, et même des films un peu plus humbles comme Donjons et Dragons, la conséquence que tout le monde en a tirée, c'est que les films coûtent trop cher. Et c'est justement, tu vois, par rapport à cette idée potentiellement de toute façon, la masse des films est trop énorme, et les gens même se désintéressent de ce côté... gigantesque des films, c'est que de toute façon les gens ont l'air de vouloir même revenir à quelque chose d'un peu plus petit. Alors c'est même, tu vois, un film comme Spider-Verse qui reste un gros film mais qui est un film plus petit en termes d'échelle quand même, en profite grandement. Et là, la plupart des gros studios se rendent compte que bah oui, en fait, tu peux pas investir 300 patates dans un film, c'est sûr.
Sauf Avatar 2, qui a investi une masse de thunes et a cartonné.
Mais avec la promesse, tu vois, des suites derrière, et évidemment le poids lourd que reste le premier encore aujourd'hui, donc, et la promesse technologique, l'appareil du film que t'es obligé de voir en salle.
Mais tu vois, ce serait intéressant parce que là, on parlait des Fast, des missions qui, au bout de 6-7 épisodes, se cassent la gueule, ou en tout cas avec une chute, il y a un moment, Avatar ne va pas continuer à grimper, ça me semble assez illusoire. Donc à quel moment ça va arriver, comment ils vont négocier ça, et à quel moment ils vont couper le robinet à James en disant écoute, Jim, t'es marrant, mais...
Bah surtout que déjà, il n'a pas dépassé le premier, hein, pour l'instant, le Avatar
oui,
2.
Et ça reste quand même... Ça reste des scores records, ah, hallucinants. Oui. Ça reste à peu près, genre, Fast 7 et Fast 8. Tu vois, si ça baisse de un petit peu, ça reste quand même énorme.
Ouais. Mais tu vois, moment, ça m'amène, tu vois, cette réflexion que j'avais sur même l'épuisement des marques. C'est que, bah, Donc Bob Iger, le patron de Disney, est le premier à avoir un peu parlé de ça, c'est de dire de toute façon on a beaucoup trop investi dans Marvel et Star Wars en particulier, il faut justement, là pareil, couper les vannes un peu et ou du moins imposer aux cinéastes qui bossent dessus de bosser à moindre coût. Et surtout bah, quand on sait que par exemple Secret Invasion, la série Marvel, a coûté plus de 200 millions de dollars.
Ça, un jour. Mediapart, enquêtez là-dessus, s'il vous plaît, parce qu'il y a un truc louche.
Mais rien ne va dans ce chiffre, quoi. Et surtout quand tu vois la gueule de la série au final. Et pareil pour les séries Star Wars, qui non seulement se font de manière très régulière, qui attirent pas tant que ça forcément des spectateurs. Hein. On voit que Mandalorian a chuté de saison en saison.
Mais peut-être que ça vont déjouer les sabres laser après. Et
bien sûr, ça c'est clair. Je pense que Bébé Yoda représente le PIB du Togo à lui tout seul, mais bon, voilà, est-ce que ça va suffire sur la durée? Et en fait, donc il y a Bob Iger qui a évoqué ces chiffres-là, et les producteurs de Donjons et Dragons, ça c'est assez intéressant, ont aussi dit qu'ils voudraient évidemment faire une suite, mais que s'ils le font, ils savent d'ores et déjà qu'il faudrait le faire, il faudrait trouver le moyen de le faire pour beaucoup moins cher.
No shit.
C'est quand même drôle, parce qu'au niveau de Pixar, c'est quand même le truc inverse, où les budgets ne cessent d'augmenter. Là maintenant, 200 millions, c'est un petit peu le budget moyen, c'est ce qu'a coûté Buzz l'éclair, et c'est ce qu'a coûté aussi d'autres films avant. Mais on commence à se rapprocher de ces budgets-là, même chez Disney, qui augmente petit à petit, parce que les budgets de Pixar ont toujours été plus importants que ceux de Disney. Mmh. Et bon, là, sur Elementor, je trouve quand même que c'est justifié, parce qu'en plus, il y a des nouvelles technologies qui ont été mises à contribution, justement, pour créer l'animation des éléments en direct. Donc, c'est pour ça que je trouvais aussi que le film était bien, et que c'était cool qu'ils reviennent, parce que en plus, on a un peu tapé sur... Enfin, moi aussi, la première, je vais pas m'en cacher, j'ai un peu tapé sur Pixar, sur un peu cette paresse qui s'installait par rapport au début et aux ambitions du studio, qui était en fait de vraiment mettre les nouvelles technologies et le numérique au service de l'animation et de raconter des histoires et tout ça. Et que là, au final, on revient à ce truc du « on va se casser la tête quand même à faire certes des trucs chers, mais des trucs beaux, des innovations ». Et c'est pour ça que j'espère vraiment que du côté de Pixar, les budgets peut-être seront mieux utilisés, mais ne seront pas drastiquement baissés. Je trouverais ça très dommage.
Mais l'année n'est pas terminée, donc bah, c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours une façon de voir certains bids qui pourraient s'annoncer et d'autres films qui, on l'espère d'ailleurs, pourraient cartonner. Il y a quoi comme film qu'il va falloir un peu surveiller pour justement voir si ce dont on est en train de parler est une tendance ou si ça va aussi servir de contre-exemple?
Je pense qu'en théorie, celui qui est censé être le plus safe, en théorie, c'est Aquaman 2, puisque le premier a fait plus d'un milliard. Mais vu le cimetière d'ici dans lequel on est, je pense que ça va faire très mal par rapport au score du premier, alors que c'était censé... en théorie, être la suite du truc qui était leur gros
mais
carton.
Mais là, c'est pareil. C'est donc, exactement comme pour Shazam 2 ou pour Blue Beetle ou pour The Flash. C'est un projet mort-né. Enfin, ouais. Le personnage, on t'explique concrètement qu'il existe quasiment plus dans le DCU, que de toute façon, il ne va pas revenir. C'est pas les plans. Donc, pourquoi ce film sort ?
Oui, moi, j'avoue que Aquaman, pour le coup, c'est celui que j'observe en m'attendant au crash de bagnole. Quoi. Mmh. C'est vraiment le truc. Il y a le problème Amber Heard, les projections test sont visiblement une catastrophe et pourtant je fais partie de ceux qui apprécient le premier comme truc régressif rigolo, mais
techniquement franchement, ouais, j'ai du mal à m'attendre à une vraie claque, surtout quand tu vois la petite sirène, la technologie sous l'eau, tout ça là, je m'attends un peu, avec en plus les réminiscences du premier Aquaman en
c'est,
tête.
C'est ça, en plus il y a eu Avatar 2 entre temps, mine de rien, je sais pas tu vois à quel point c'est un truc qui peut jouer contre lui, mais c'est quand même une
toute
autre chose.
En tout cas je pense que ça va faire mal parce qu'en théorie ça devait être un truc safe par rapport à tous les c'est autres, clair. Il arrive plus tard que The Flash alors qu'il devait sortir avant parce qu'il était décalé par rapport à Avatar, c'est genre vraiment le c'est la dernière patate chaude de DC dans cet état-là, mais ça va être intéressant à observer.
Et puis l'autre cas justement chez la concurrence chez Marvel, c'est The Marvels, donc qui est censé arriver d'ici,
2,
qui a été retardé
bah,
je ne sais
combien
de fois.
Pareil, encore un film qui va être comparé au premier qui a fait un milliard parce qu'entre les deux Avengers, du coup comparaison qui est déraisonnable puisque ça ne peut pas Là, en fait, le premier était le complément du succès des Avengers Endgame Infinity War, celui-là va être sûrement le complément du gigabit d'Ant-Man 3 malgré lui. C'est qu'en fait, il va toujours être le miroir de ce qui est passé avant. A priori, ça va faire mal parce que...
Bah surtout que là, c'est un des films qui va le plus souffrir du fait que son bagage, c'est les séries Disney+. Et notamment de Miss Marvel, qui est à l'heure actuelle la série la moins regardée de Disney+.
Oui, alors,
donc, alors qu'en plus, c'était pas la pire, clairement, surtout après Secret Invasion. Mais quand tu te dis que tu pars de personnages qui viennent de WandaVision et de Miss Marvel... Est-ce que vraiment le public va répondre présent sur la suite d'un film qui a maintenant plus de 4 ans et à partir de... Alors qu'on te dit qu'il faut que tu aies vu les séries avant, ça risque d'être compliqué.
Et en même temps, ça arrive dans un climat où Disney disent eux-mêmes qu'ils ont fait trop de séries, donc c'est peut-être juste, ça va être le clou dans le cercueil de cette stratégie de en fait, les gars, vous avez abusé, hein, les gens n'ont pas envie de voir autant de séries, il faut pas autant compter sur l'envie que les gens se souviennent de chaque petit élément, donc peut-être que ça va être la confirmation absolue, et peut-être tant mieux pour le beat de Captain Marvel, j'ai rien contre elle et contre Bill Larson, mais peut-être qu'il faut surtout que ça marche pas pour que le truc se rééquilibre et qu'ils arrêtent de miser autant et de survendre autant des séries, parce qu'en fait, personne n'en a envie. copie, visiblement. Pas à ce point-là.
Et l'autre cas, enfin le dernier qui me semble le plus intéressant, c'est Dune partie 2 de Denis Villeneuve. Et qui, pour le coup, le premier était plutôt un joli succès.
En temps de Covid, très compliqué, voilà. Machin. Donc, très,
et là,
très
la deuxième partie, le succès d'estime du premier, en plus derrière. Son casting qui est quand même très alléchant, y compris pour toutes les tranches de public. Et surtout, je pense qu'il y a moyen, et ça m'intéresserait, que le succès d'Oppenheimer puisse vraiment jouer en sa faveur, pour plusieurs raisons. C'est que Denis Villeneuve, c'est quand même un auteur qui est assez affirmé maintenant, un peu comme Nolan, pas aussi fort, mais c'est possible, qui en plus, pour le coup, a pas trop cartonné jusque-là avec ses gros projets comme Blade Runner 2049. Et surtout, comme Oppenheimer, Dune repose beaucoup sur l'IMAX et sur la promesse aussi, tu vois, du format, du côté très ample de son image et de sa technique. Donc possible que après le carton d'un film comme Oppenheimer, qui a beaucoup reposé sur le premium pour se vendre, j'espère que Dune va profiter un peu de la même dynamique, et pour le coup à voir, hein, mais j'espère que son succès sera plus flamboyant encore que celui du premier.
C'est vrai que ça me ferait vraiment mal au cul qu'il marche pas, hein, parce que j'ai plein de remarques sur le premier, mais je trouve qu'il est quand même super excitant, j'adore l'univers, j'aimerais trop qu'il puisse le développer et qu'il y ait un engouement du public pour qu'il y ait un engouement des financiers et que l'univers continue. Il y a clairement moyen d'en faire un bon film, et puis voilà, c'est du spectacle un peu haut de gamme, prestige, qui essaie de proposer un angle différent sur le divertissement, donc ouais, s'il se plante, franchement, ça va vraiment faire mal.
En tout cas, ça fait plein d'idées d'articles franchement intéressants. Mais franchement, je me dis surtout que ça ferait un super sujet de podcast le jour où Écran Large se décidera d'en faire un. Et si un jour on fait ce podcast, il faudra surtout rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important.
Et oui. Si vous aimez notre podcast et que vous voulez qu'on continue, vous pouvez vous abonner au site Écran Large. Alors pourquoi vous abonner à Écran Large ? Déjà, ça vous donnera accès à des articles exclusifs chaque semaine, et surtout, en vous abonnant, vous soutenez Écran Large et vous permettez à notre média libre et indépendant de continuer à vivre. Les détails sont dans la description du podcast. Merci et à bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.